appelle de Boutikassa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André du Mouvement et au Kassa Oriental. Je réfute totalement ce que tu
dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Le monde a célébré le 21 mars dernier la journée mondiale des forêts. En marge de cette célébration, Paroles aux auditeurs se penche sur la problématique de l'exploitation du bois dans les forêts congolaises. Plusieurs organisations gouvernementales, tant nationales qu'internationales, estiment que la forêt congolaise est encore victime d'une exploitation illégale du bois. Pour ces ONG, cette pratique plonge le pays dans un chaos organisé et prive les trésors publics d'argent. Les ONG indiquent que certaines sociétés ne respectent pas la loi congolaise dans l'exploitation forestière. Que faire pour mettre fin à cette situation? Nous en parlons avec José Ilanga, il est directeur coordonnateur d'études des planifications au ministère de l'Environnement. J.R. Lungembo, Titi Mputu sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangasa dans la présentation des Pierrot et le Menji sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Menji.
Vous pouvez également nous joindre au 081 890 43 39, 081 890 43 39 pour mettre votre point de vue et surtout votre proposition par rapport à la lutte contre l'exploitation illégale du bois dans les forêts congolaises. Nous avons Modeste qui est en ligne en attendant bien sûr que notre invité soit avec nous dans quelques puissures de temps. Nous commençons avec vous Modeste, vous êtes à Kananga dans la province du Kasaï occidental, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Menji. Bonjour à l'invité qui n'est pas encore en ligne. Bonjour aux auditeurs de Radio France. C'est Modeste, membre de Kananga occidental.
Modeste, ensemble, nous dégageons les pistes des solutions pour mettre fin à l'exploitation illégale de bois dans la forêt congolaise. Quel est votre point de vue?
En tout cas, y égard aux émissions précédentes que la Radio France a organisées sur ce qui concerne l'environnement ou la protection du bois, nous savons que le bois a beaucoup plus d'importance sur la vie humaine, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan socio-environnemental. Alors, à cela, nous devrions d'abord comprendre la nature de l'environnement ou du bois à ce qui concerne le social congolais. Parce que certains ou d'autres pensent que le bois n'a pas assez d'importance. Ici, par exemple, au Congo, nous disposons de la forêt équatoriale qui ravitaille tous les peuples congolais, voire les trois quarts du monde que cette forêt est en train de ravitailler. Nous devions d'abord comprendre, avoir la bonne foi de ce que Dieu nous a donné comme atout naturel sur l'environnement. Il faudrait que le Congolais lui-même ait la conscience sur l'environnement et certaines espèces qui disposent de cet environnement-là. Donc, je commence d'abord à parler de la bonne foi ou de la bonne conscience que les Congolais doivent discuter. À cela, je voudrais en fait que le gouvernement ou des ministères, au niveau du ministère, qu'on organise certaines sanctions ou qu'on arrête certaines mesures pour permettre à ne pas, sinon, exploiter les bois quand il n'y a pas assez d'accessibilité. Donc, arrêter certaines mesures qui peuvent faire et pas une exploitation illégale du bois. Vous savez, à l'époque, il y a certaines gens qui avaient été attrapés. Des fois, tout le temps, quand la radiopathie émet son point de vue sur ce qui concerne le développement durable et environnement, on nous a toujours montré l'importance du bois. Et on nous montre même comment les industries sont en train d'entrer dans certaines forêts et puis d'abattre certains arbres, même s'ils ne sont même pas
Merci Modeste. On a suivi, vous avez deux propositions. D'abord, il faut une sensibilisation pour que la population congolaise comprenne l'importance de l'environnement, de la protection de l'environnement. Une sensibilisation par rapport au rôle du bois. Comme ça, ça peut amener les gens à ne plus s'adonner à l'exploitation illégale du bois. Et vous proposez aussi qu'au niveau du pouvoir public, au niveau du gouvernement, qu'on ait des mesures qui doivent être arrêtées
arrêtée et mise en pratique sur l'exploitation illégale du bois. Merci de votre appel. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental modeste, et notre invité a fait son entrée dans ce studio. En attendant, bien sûr, nous retournons ici à Kinshasa avec docteur Richard qui est avec nous. Docteur Richard, avant de vous donner la parole, on a quelques minutes pour accueillir notre invité, monsieur José Ilanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur coordonnateur d'études et des planifications au ministère de l'Environnement, c'est ça?
Exactement.
Oui. Et nous parlons aujourd'hui en marge de la journée de forêt qui a été célébrée hier. Aujourd'hui, nous nous intéressons au volet exploitation, coupe du bois dans nos forêts, parce qu'il y a des ONG, que ce soit nationales, que ce soit internationales, des fois qui se plaignent que de l'exploitation illégale. Quelles sont les mesures? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? C'est autour de ça que nous allons ensemble partager avec les auditeurs qui sont aussi concernés parce qu'ils vivent dans le milieu où se trouve le bois. Ils ont des propositions, des pistes de solutions. Nous avons eu déjà un premier auditeur, Modeste de Kananga, qui lui a pensé qu'il faut d'abord une campagne de sensibilisation de la population congolaise sur le rôle du bois et comment protéger son environnement. Mais il a pensé aussi qu'au niveau du pouvoir public, on doit avoir des mesures concrètes qui doivent être arrêtées et aussi mises en pratique en ce qui concerne la coupe illégale du bois. Nous allons revenir à vous, le temps d'écouter aussi docteur Richard qui est ici à Kinshasa, je crois bien. Bonjour docteur.
Bonjour Pierrot, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour la parole.
Nous dégageons ensemble les pistes de solutions pour arriver à mettre fin à l'exploitation illégale du bois dans les forêts congolaises. Quelle est votre proposition?
Oui, avant de donner la proposition, nous disons que il faut que l'on pose un véritable constat. Est-ce qu'il y a des coupes illégales? Si oui, par qui? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux avant de faire des propositions? Et puis, il faut remonter dans le temps. Cette pratique remonte de quand? Comme ça, on peut, avec tous ces éléments, baliser la route de prise de position. Sinon, tout ce qu'on va dire n'est que coup d'épée dans l'eau. Il y a un problème de gouvernance et de justice. Donc, dans la gouvernance, la bonne justice n'est pas là. C'est une justice de parade. La gouvernance est aussi de parade. Dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a que peut-être la brutalité de la loi ou du pouvoir sur le peuple. Mais quand on regarde dans le fond, c'est de la parade qui ne profite pas aux gens. Merci.
Oui, merci docteur. Pour vous, vous pensez qu'il faut d'abord qu'on pose le problème si réellement il y a une exploitation illégale. Vous avez suivi l'émission Dialogue entre Congolais il y a presque une semaine avec l'ONG Greenpeace dans un rapport où effectivement l'ONG a confirmé. Voilà, vous avez ces documents qu'il y a une exploitation illégale, qu'il y a des sociétés même qui exploitent en marge de la loi. Voilà, autant vous l'avez déjà suivi plusieurs fois. Nous n'allons pas dans cette émission accuser quelle société qui exploite illégalement. Mais le constat est là, que ça peut être des ONG internes tout comme externes. On a ce constat qu'il y a des gens qui exploitent illégalement. Il y a même des gens qui s'exfiltrent par rapport à l'exportation des grumes. Tout cela a été posé, mais nous dégageons ensemble les pistes de solutions. Si vous avez les documents et vous pensez que c'est une réalité, cela existe, alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Pour faire concrètement, il faut des institutions fortes. Et non des institutions de parade gérées pour l'autosatisfaction de ces animateurs. C'est ça le problème. C'est ça. Okay. Sinon, on va tourner toujours en rond, mais derrière ces exploitants, il y a des mains de ceux qui peuvent prendre des décisions.
Merci. Voilà. Merci bien, docteur Richard. Vous pensez qu'ici, il y a des interférences, cela veut dire qu'il y ait des trafics d'influence de ceux qui doivent prendre des décisions derrière ceux qui exploitent les bois. Ça sera difficile qu'on puisse trouver des solutions. On risque de tourner en rang. Franck, vous nous appelez de l'extérieur du pays, de Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour aussi à notre invité qui est là.
Notre problématique d'aujourd'hui, c'est quelles sont les mesures et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles démarches emprunter pour arriver à mettre fin à une exploitation, à l'exploitation illégale de bois dans les forêts congolaises. Votre proposition?
Oui, merci beaucoup. Il y a quelques jours, on intervenait sur vos zones, on a parlé de la gouvernance. Je crois que le problème de bonne gouvernance se pose aussi même au niveau de la gestion de nos forêts. Nous savons qu'il y a des technocrates avec autant de mérites qui prêtent au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Je ne sais pas ce que l'invité qui est là pourra nous dire, mais je vais seulement lui faire une révélation, c'est seulement au niveau de la province de Bandundu. Je me réfère à ce qu'un intervenant disait lors d'un colloque international organisé par le CESBA sur l'écologie et les traditions africaines. L'intervenant parlait ou intervenait au nom de la hiérarchie du ministère provincial de l'Environnement. C'était en date, c'était le 3 octobre 2012, dans la ville de Bandundu. L'intervenant disait ceci. Au niveau de notre ministère de l'Environnement, au niveau provincial, il n'y a pas de politique tracée. Je dis bien, il l'a bien dit, il n'y a pas de politique tracée. Et les gens qui me suivent à partir de la ville de Bandundu peuvent se souvenir de ce que cet intervenant disait. Il n'y avait pas seulement moi dans la salle, il y avait aussi un député provincial, il y avait l'évêque de Kenge, il y avait un prélat qui est venu de l'Italie, il y avait beaucoup de profs des différentes universités du monde qui étaient là. Et M. Pierrot, si déjà au niveau provincial, il n'y a pas de vision de gestion des forêts, mais qu'est-ce qui n'est pas dit là? Je crois que le monsieur l'avait tout dit. Donc, la gestion de nos forêts, c'est... Il y a trop de cafouillage. Je vais encore enfoncer le clou par rapport à ce que le compatriote Richard venait de dire. Donc, quand vous êtes dans le Bandundu, vous voyez des gros véhicules sortir avec des grumes. Vous voyez des gens aller exploiter des forêts. Et dans la plupart des cas, ils préfèrent sortir la nuit. Mais ils sortent avec quelle autorisation? Ils vont le faire avec quelle autorisation? C'est qu'il y a des menuises, il y a des complicités, il y a des ramifications, il y a des gens qui tirent profit de ces désordres-là. Je crois que même ici, on ne va pas aller chercher des boucs émissaires par-ci, par-là. Le problème, c'est au niveau de la bonne gouvernance. Quand il y a une bonne gouvernance, il y aura des lois qui devraient être exécutées, il y aura des directives qui devraient être suivies, et on pourra toujours éviter tous ces cafouillages. Mais tant qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, ça devient comme un peu de gel, M. Pierrot.
Voilà, merci beaucoup Franck. 081 890 43 39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, José Ilanga. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a Dr Richard de Kinshasa qui voudrait d'abord savoir s'il y a un constat réel d'une exploitation illégale de bois dans les forêts congolaises. Il y a beaucoup d'ONG, il y a Greenpeace qui en a parlé, il y a WWF qui en ont parlé, la société civile congolaise en a parlé, que ce soit à l'Équateur, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit dans le Bandundu. Plusieurs fois on est revenu là-dessus. Mais est-ce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, vous avez aussi ce constat qu'il y a une exploitation illégale du bois dans les forêts congolaises?
Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut à un certain moment faire la part des choses. C'est vrai, les uns comme les autres ont fait le constat. Nous avons des rapports qui ont été élaborés par-ci, par-là, par plusieurs structures. Je crois qu'il faut faire, quand je dis qu'il faut faire le distinguo, c'est dire qu'il y a deux modes d'exploitation forestière dans notre pays. Il y a l'exploitation forestière dite industrielle. Là, la société signe un contrat avec le gouvernement de la République, ici représenté par le ministère de l'Environnement, et sollicite chaque année une autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre. Et le deuxième mode, c'est l'exploitation forestière de type artisanal. Dans l'ensemble, que ce soit l'exploitation industrielle, que ce soit l'exploitation artisanale, les deux modes sont régis par une réglementation. La société, comme l'exploitant artisanal, doit solliciter, je dis bien, et c'est par là que je dois commencer, solliciter, obtenir du ministère ayant les forêts dans ses attributions, une autorisation de coupe de bois d'œuvre. Pour les industriels, on appelle ça autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre. Pour les artisanaux, on appelle ça permis de coupe de bois d'œuvre. C'est dire que celui qui ne détient pas une autorisation de coupe de bois émise par l'autorité compétente, qui est le ministre du gouvernement central ayant dans ses attributions les forêts, il est déjà dans l'illégalité.
Cela veut dire que tout permis d'exploitation, que ce soit pour ceux qui veulent exploiter de manière artisanale, industrielle, tout doit émaner du ministère national.
Et j'insiste jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à l'aboutissement total de ce que... Ça constituera peut-être pas ce débat ici, à l'aboutissement total du processus de foresterie communautaire au cours duquel on va donner, concéder des forêts aux communautés locales. C'est l'autorité du ministre du gouvernement central ayant les forêts dans ses attributions qui délivre les permis de coupe lorsqu'il s'agit de l'exploitation artisanale ou l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre lorsqu'il s'agit de l'exploitation forestière industrielle.
Okay.
Donc, cela sous-entend tout simplement, celui qui n'est pas détenteur d'un des permis, d'un des documents, il est déjà dans l'illégalité. Et j'avoue que le constat qui est fait par les uns et les autres peut s'avérer vrai. Mais c'est surtout dans les chefs de l'exploitation forestière artisanale que le problème se pose souvent. Pourquoi souvent? Tout simplement parce que le pays étant ce qu'il est, certains exploitants ne passent toujours pas par les ministères ayant les forêts dans ses attributions, négocient avec ce que nous appelons les chefs locaux et coupent des bois et utilisent plusieurs moyens, comme vous dites là. Mm-hmm. Ils évacuent leur bois de par la rivière ou bien par la voie de route la nuit, notamment, et tout ça. C'est que je vais vraiment peut-être pas m'attarder par là. Je voulais juste dire, celui qui ne détient pas un document, il est déjà dans l'illégalité. Et vous avez posé un problème de fond. Quelles sont les pistes et les solutions?
Mm-hmm.
Les pistes et les solutions, je crois, il faut d'abord commencer par respecter la réglementation par rapport pas à l'attribution, mais par rapport à l'obtention du permis de coupe.
Mm-hmm.
Il y a une autorité établie, il faut aller vers cette autorité qui est représentée aussi bien au niveau des territoires, des districts que de la province pour obtenir d'abord ce qu'on appelle l'avis des vacances sur la portion de forêt dont on veut exploiter.
Mm-hmm.
Et c'est sur base de cet avis des vacances que l'autorité du gouvernement central établit les permis. Ça, c'est surtout dans les chefs de l'exploitation artisanale.
Mm-hmm.
Ce que nous constatons souvent, c'est peut-être pas ce qui se passe. Ça, c'est un. Donc, il faut respecter la réglementation. Et c'est vrai, c'est pas tout le monde qui respecte la réglementation pour le plaisir de respecter la réglementation. Et lorsqu'on ne respecte pas la réglementation, il faut appliquer alors cette réglementation par plusieurs mesures. Et au niveau du ministère de l'Environnement, il faut reconnaître une chose. Il y a de plus en plus ces renforcement des capacités des contrôles, pas seulement dans les actes de transiger, mais dans les contrôles et dans l'encadrement de l'exploitation forestière. Le ministère dispose d'une direction du contrôle et vérification interne au niveau de Kinshasa, qui a des émanations au niveau des provinces. Nous sommes de plus en plus, quand je dis nous, c'est le ministère de plus en plus renforcé. Il y a des dons que nous recevons aussi bien du gouvernement japonais que du gouvernement français que des autres, et pourquoi pas la Banque mondiale et l'Union européenne, pour essayer de renforcer la capacité de contrôle de nos services au niveau de l'intérieur pour éviter qu'il y ait cette exploitation illégale des bois d'eau dont les non-respects de la réglementation à ce qui concerne notamment la sollicitation et l'obtention des permis de couper. Donc c'est ça les mesures qui de plus en plus prennent forme. Et pour s'en convaincre, vous savez, il y a eu plusieurs, à ce qui concerne l'exploitation forestière artisanale, il y a eu plus de fraudes, hein, de l'exportation illicite du bois congolais vers les pays frontaliers de l'Est, parce que la situation que nous connaissons, des guerres et tout ça, a favorisé aussi cette situation. Et ce qui fait qu'actuellement, le ministère est entré, à travers un programme de la Banque mondiale, d'installer des camions scanners, d'installer des postes de contrôle à tous les niveaux, au niveau de Kinshasa, comme au niveau de l'Est du pays. Donc, il y a un travail de fond. Donc, mesure prise, c'est le renforcement des contrôles. C'est pas seulement pour traquer, mais c'est beaucoup aussi pour éduquer, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure.
Il faut informer la population
que l'autorité coutumière n'est pas à même de délivrer une autorisation de coupe de bois d'œuvre. C'est l'autorité Kinshasa du gouvernement central qui a les forêts dans ses attributions qui peut faire qu'il y a ces mandats-là. Donc, il y a l'information, il y a la sensibilisation, et bien sûr, il y a aussi la vulgarisation du code forestier, dans lequel on trouve des textes d'application en rapport avec l'exploitation aussi bien industrielle que artisanale de bois d'œuvre.
Voilà. Voilà, on va revenir à vous. C'est une émission d'échange avec les auditeurs. Nous allons aussi les écouter parce qu'ils sont concernés par l'exploitation du bois dans le forêt. Ils sont, peut-être ils vivent hein, à côté de ces forêts ou soit ils exploitent. Quelles sont vos propositions, votre point de vue par rapport à l'exploitation illégale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Jean, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Kati.
Vous avez suivi notre invité, les uns et les autres. Quelle est votre proposition?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que pour ce sujet, même si l'invité essaie de donner certaines explications qui semblent être claires, il y a le problème qui est à la base, c'est la corruption. La corruption, pourquoi? Parce que les gens qui font le coupe de bois, qui doivent obtenir les documents, souvent partent de Kinshasa. Alors, à partir de Kinshasa, dès que quelqu'un a un document, il sera dans n'importe quelle province. Étant donné que ce document a été livré ici à Kinshasa, les villageois en général, même les chefs autochtones, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils ont la facilité de céder, de donner l'autorisation immédiatement à celui qui est porteur de ces documents, même s'il n'a pas acquis ces documents dans les voies normales. Alors, maintenant aussi, il y a une complicité aussi avec la base, c'est-à-dire les chefs du territoire ou les chefs des collectivités, et collabore immédiatement avec celui qui a amené les documents et il prend l'argent et il donne à celui-là. Et quand il lui donne l'argent, immédiatement il autorise de faire la coupe des bois. En attendant, la population ne bénéficie de rien. Alors, je ne sais pas, peut-être que l'invité pourra me répondre. Quelle est la politique que le ministère a mise en place pour que les bois exploités soient aussi, disons, que la population tire aussi bénéfice de ces coupes? Pourquoi? Parce que d'une façon ou d'une autre, la population est aussi responsable, c'est-à-dire il protège en quelque sorte aussi la forêt. Mm-hmm. Quelle est la cote de la population qui vit dans les villages et qui protège tant soit fait cette forêt?
Mm-hmm.
Alors,
merci.
Il y a aussi un autre problème maintenant que mm-hmm. pour éviter ces coupes-là, le problème que le ministère doit avoir ses antennes partout, c'est-à-dire que travailler avec les chefs des villages, les chefs des secteurs, les chefs des collectivités, les chefs des territoires, ainsi de suite, pour qu'il y ait un travail en commune mesure. Dès qu'il y a quelqu'un qui amène un document quelconque pour le coupe de bois, il demande à la source, c'est-à-dire à Kinshasa par exemple, ou au niveau de la province, pour vérifier si seulement si c'est vrai les documents qu'on a envoyés, et on va l'autoriser de couper les bois. Enfin, il doit rester un pourcentage pour le profit de la population et non donner au chef. Parce que quand on remet l'argent au chef, c'est le chef qui utilise pour ses fins. La population en soi ne bénéficie de rien. Mm-hmm. Alors, on va accuser que voilà, c'est la population qui coupe les bois pour les bois de chauffage, pour la braise, ainsi de suite. Pourtant, dès que le chef décide, le peuple ne peut plus rien faire. Alors,
merci beaucoup, Jean.
Je crois qu'on pourra bien sauver nos forêts qui, déjà petit à petit, continuent à souffrir. Hein. Mmh. On coupe les bois, mais il n'y a pas le système de reboisement. Donc, planter de nouveaux arbres, et ça fait déjà un problème.
Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Il y a autant de propositions, mais aussi des préoccupations dans votre intervention. Vous souhaitez d'abord qu'il y ait un mécanisme de lutte contre la corruption. Il y a aussi le problème des complicités, vous pensez, des entités locales. Mais vous proposez aussi qu'il y ait un mécanisme de vérification des documents que les gens détiennent. Hein. Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont vraiment livrés par l'autorité compétente au niveau de Kinshasa? Et là, vous demandez qu'il y ait un mécanisme d'implication de toute la chaîne au niveau local jusqu'à Kinshasa dans la surveillance. Mais vous allez poser la question à notre invité s'il y a quelle est la part de la population locale hein, dans l'exploitation des bois à travers nos forêts. Il pourra répondre, mais aussi la question du reboisement. Merci beaucoup, Jean. Nous restons dans la capitale avec Sylvain. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Pierrot. Bonjour aux auditeurs.
Vous avez suivi plusieurs propositions et d'ailleurs, Jean, tout de suite, qui venait dénoncer autant de mesures pour lutter contre l'exploitation illégale. Quel est votre point de vue?
Oui, merci. Je voulais commencer d'abord par une référence. Je ne sais pas, vous me permettez?
Allez-y rapidement pour gagner le temps. Ce sont des sujets qui sont très intéressants. On a beaucoup d'auditeurs en ligne.
D'accord, merci. Vous savez que je prends l'exemple d'un peuple, Israël. Il est arrivé un moment où ce peuple n'avait pas de dirigeants, n'avait pas de leaders, n'avait pas de responsables. Et le pays était transformé en un pandémonium, un lieu de tous les morts. Alors, je vous dis par quoi par là. Lorsqu'on a des gens qui sont en mission, ils les servent bien. On ne peut pas les indiquer, faites ceci, faites cela, à tel moment, ici et là-bas, non. Si nous revenons au pays, tous les secteurs de la vie nationale tournent à même sol. Ça signifie qu'il y a un vide de leadership, pas de responsable, et il n'y a pas surtout de dirigeants qui soient capables et compétents de redresser tous les secteurs de la vie nationale. Par rapport au sujet, il y a deux jours passés, on a mis un sujet sur le niveau du développement. Il y a un rapport qui a été étudié très accablant, même que je regrette jusqu'aujourd'hui. J'attendais que les Parisiens qui ont toujours défendu le gouvernement puissent prendre le devant, mais il n'a pas parlé, il y a eu un silence, et il est victime. En ce qui concerne l'agriculture ou, pardon, l'exploitation légale des voies d'accès congolaises, c'est catastrophique. Donc, tout converge vers le leadership. Lorsqu'on a des leaders, on a des responsables, on a des dirigeants qui sont compétents, qui ont la mission, non, ce que Richard et les autres ont dit, mais c'est vrai, il y a la bonne gouvernance. Donc, le problème, c'est quoi? C'est le manque.
Voilà, Sylvain. Désolé vraiment qu'on ait perdu Sylvain. Lui insistait beaucoup sur le problème des capacités et des leaderships, hein, mais malheureusement, il n'a pas pu aller plus loin avec son point de vue. Nous avons Ismaël qui est à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Malheureusement, on n'a pas pu suivre la fin de l'intervention de Sylvain qui était à Kinshasa, qui était en train d'évoquer le problème des capacités, des leaderships, hein, bon, dans la gestion des forêts. Dommage qu'on l'ait perdu. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour arrêter l'exploitation illégale de bois dans nos forêts?
Les problèmes tombent souvent sur le ministre de l'Agriculture.
De l'Environnement.
Et de l'Environnement qui s'occupe de ces genres d'accès. Souvent, si on prend la conscience de tout ce qui se passe, en disant que nous tous, nous vivons des plantes, et là peut avoir aussi l'ampleur sur la population. Une conscience dirigée juste vers l'environnement, on peut savoir qui est permis à exploiter les bois en RDC. Remarquez un peu, en RDC, il y a une habitude. Hein? Quand tu poses par exemple une question, comment ça va? On répondrait, ça va bien, c'est comme si tout était en cosmos. Je demanderai, c'est d'abord une petite question, à savoir qui peut être autorisé pour exploiter les bois. Remarquez un peu les expatriés, ceux qui viennent d'ailleurs, quand ils exploitent, et combien d'intérêts et les profits de la population. Et j'ai articulé aussi une question sur ce qui se passe souvent sur la pratique d'influence, soit les commerces d'influence. Qui exécute ce genre de mission et qui les tenait souvent? Ce sont, si ce n'est pas le ministre, c'est un frère du ministre. Vous osez un peu dire un petit mot, il dit, tu ne sais pas qui suis-je, là où je viens, tu ne connais pas ma famille, c'est ça une préoccupation. Pour mettre fin à ce genre de pratique, que le gouvernement prenne d'abord la conscience de tout ce qui se passe en RDC. Par exemple, à ce qui entre à l'intérêt de la population et à l'intérêt des fonctionnaires de l'État. Et ceux qui sont, qui occupent un titre quelconque, qu'ils comprennent que nous tous, nous devons vivre pour l'intérêt des autres, c'est-à-dire, n'est pas d'abord, moi je suis un ministre, je peux exploiter pour avoir les bateaux et ainsi de suite. Les bois aujourd'hui posent un grand problème, et surtout à ceux qui reçoivent le permis d'exploitation, c'est-à-dire les expatriés. Et la République et le peuple de cette nation ne reçoivent rien en retour. Et quand ils exploitent par exemple des braises, et exploitent parfois des petits arbres, des petits bois, ainsi de suite. Ils ont tous poursuivi, ils font quelque chose là. Mais alors, ceux qui viennent d'ailleurs. Moi, je me dis, quand j'ai fait quelquefois un tour du Congo, j'étais quelque part où j'ai vu on appelle ça un seigneur, ce n'est pas mon seigneur catholique, on appelle ça un Mukenge. Ils exploitent des bois du côté Bunkonde, ils montent avec. Je me demande, par exemple, s'il avait une autorisation de faire cela. Et à combien l'État reçoit aussi? C'est parce que, c'est, par exemple, ils arrivent à quelques petits, bon, je ne sais pas quoi, des villages de l'autre côté. C'est bien le passage là. Et les gens là devaient passer à Ambrousse pendant des années, ils exploitent à une grande quantité là. Et je demande si réellement il est poursuivi, soit l'État est au courant de tout ce qui se passe là. Si vous quittez ou si vous descendez du côté Bandoumé, ainsi de suite là, vous verrez chaque personne a son tronçonnaise. Il les exploite de la façon dont il veut. Si vous allez dans des missions catholiques qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas. Je demande, l'une des priorités, c'est qu'il y ait aussi le suivi à tout ce qui se passe et qu'il n'y ait pas aussi la prédication d'influence entre le gouvernement.
Merci.
Nous avons une difficulté, pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont, qui occupent tel ou tel titre, qui interviennent juste quand on exploite. Si on prend la conscience de ces pays, vous allez voir que. Mais si l'État soit instauré aussi ses exploitations avec les institutions telles que l'agriculture, telles que d'autres institutions, telles que ça ne fait pas partie de ces sujets, telles que la vétérinaire, ça peut aussi aller, on s'occupe aussi des arbres. Quand il y a une perte, on ajoute aussi d'autres. On sait que telle ou telle maladie atteint cet arbre et à tel moment on va exploiter cet arbre pour planter soit ici.
Merci beaucoup, merci Ismaël. Vous avez rejoint notre ami Modeste Kanga. Vous pensez qu'il doit d'abord avoir une prise de conscience de tout le monde vers la protection de l'environnement. Vous proposez aussi de lutter contre les trafics d'influence et il faut aussi faire le suivi pour savoir celui qui a reçu le titre, qu'est-ce qu'il fait sur terrain, comment travaille-t-il. Et vous avez posé la question à notre invité de savoir qui a l'autorisation, qui peut avoir l'autorisation d'exploiter les bois pendant que Jean lui demandait quelle est la part de la population locale. Merci beaucoup. Nous restons dans la capitale avec Gaston. Bonjour Gaston.
Merci à vous aussi.
Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre proposition?
Disons, sans préjuger les positions des autres, je pense que je devrais d'abord poser une petite question à l'invité qui est là.
Allez-y.
Il me semble que
allez-y.
Tous les pays du monde actuellement respirent grâce à notre forêt. Et qu'est-ce que nous gagnons en contrepartie par rapport à ça? Qu'est-ce que ces États-là versent en contrepartie par rapport à la forêt qui est la nôtre et qui est actuellement, commence à respirer grâce à ça? Et puis, quelles sont les stratégies, les efforts du gouvernement là-dessus par rapport à ces problèmes ici? Bon, je vais aussi aborder le sujet dans ce sens ici. Nous avons la forêt, bien sûr. Nous avons la forêt. Et essayez un peu de sortir en dehors de la capitale aussi, vous verrez qu'il y a des forêts. Il y a des grandes forêts. Mais le problème, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes avec cette forêt? Si vous dites aujourd'hui, ces gens-là viennent, ils coupent nos bois, ils font tout ce que vous savez. Mais ils partent, transforment. Ailleurs, ils viennent avec leur matériel, ils coupent, partent. Moi, je jugerais bon qu'on puisse l'utiliser au lieu de rester le bois chômé et puis utiliser ça dans ce sens-là. Donc, si nous ne faisons rien avec notre forêt, nous ne transformons rien ici sur place, on ne sait pas valoriser nos forêts, il faut que les gens qui en ont besoin puissent l'utiliser. Moi, j'appellerai ici nos dirigeants de mettre en valeur nos ressources. Les forêts, vous savez que les forêts sont à la base de pétrole, de gaz, tout qu'on sort. Qu'est-ce que nous faisons avec tout cela qui a, mais, disons, que nous avons comme ressources? On ne sait pas voir quelque chose de spécial par rapport à ça. Il ne suffit pas de condamner ceux qui viennent exploiter. Nous-mêmes, nous n'exploitons pas et nous ne faisons rien avec. Donc ça risque de pourrir comme ça au moment où d'autres gens ont besoin de ça ailleurs. Il serait bon d'accorder la possibilité à ces gens-là de venir exploiter, mais d'une manière ordonnée. Mais aussi nous-mêmes, exploitons d'abord. Parce que vous savez, avec la forêt, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons des forêts qu'on ne sait pas faire quelque chose avec. Donc j'allais dire tout simplement, pour essayer un peu de résumer, il faut que nous puissions bénéficier de la réserve de la forêt qui est dans notre territoire, que les autres États en profitent actuellement. Il me semble qu'ils avaient décidé de verser quelque chose et que notre État est privé de cela. Au moment où nous ne sommes, si pas les deuxièmes, pays qui fournit tout
l'oxygène,
ce comme énergie et tout
voilà,
comme ça.
Merci, merci beaucoup.
Et puis, nous devons mettre en valeur tout ce que nous avons comme les sous-ressources.
Merci Gaston.
Afin que... Oui, merci.
Merci beaucoup Gaston. Vous avez posé la question à notre invité de savoir qui gagne la RDC par rapport à l'oxygène qui est produit, qui est aussi consommé à travers le monde. Y a-t-il des bénéfices par rapport à notre forêt? Mais vous souhaitez aussi qu'on puisse mettre en valeur, parce que nous n'avons pas les moyens d'investir dans l'exploitation forestière, dans la coupe de bois, qu'on laisse ceux qui veulent bien exploiter venir, mais à condition qu'ils les exploitent en suivant la loi et d'une manière ordonnée. Merci beaucoup. André, vous êtes en Bujuma, Idoka, Salumbashi, gardez la ligne. Nous allons revenir à vous après que notre invité ait répondu aux préoccupations des auditeurs et commenté aussi leurs propositions après quelques secondes.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, José Ilanga. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a trois questions, mais plus aussi des propositions pour compléter ce que nous sommes en train de débattre. Il y a un ami qui a voulu savoir quelle est la part de la population locale dans l'exploitation forestière, dans la coupe de bois qui est coupée dans nos forêts. Il y a la question de savoir qui a l'autorisation, qui peut avoir l'autorisation d'exploiter, de couper les bois. Et la troisième question, c'est que gagne la RDC par rapport à l'oxygène qui est produit sa forêt à travers le monde. Mais il y a eu aussi des propositions, tout ce qui doit être fait pour lutter contre l'exploitation illégale.
Merci, monsieur le journaliste. J'avoue que les interventions de nos compatriotes sont très pertinentes et nous sentons les réels intérêts, aussi bien pour nos forêts et nos ressources forestières que pour nos communautés. Par rapport à la préoccupation de notre collègue Jean de Kinshasa, je crois... Il y a aussi un problème d'information, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas l'occasion ici pour ouvrir un grand débat. Il doit seulement retenir que la réglementation, donc la loi portant code forestier, prévoit que pour chaque contrat de concession forestière, il y ait un arrangement particulier. Un arrangement particulier qu'on appelle la clause sociale. Un arrangement particulier entre l'exploitant forestier, et la communauté riveraine, donc la communauté voisine à la forêt ou au bloc de forestier concédé. Et cette clause sociale renferme des infrastructures socio-économiques et culturelles que l'exploitant forestier doit implanter dans la région pour continuer son exploitation forestière. Et ces infrastructures socio-économiques et culturelles bénéficient à la communauté tout entière. J'ai entendu tout à l'heure là quelqu'un parler des chefs coutumiers. Non, la loi est claire par rapport à ça et le ministère de l'Environnement y tient. Et tout détenteur de contrats de concession forestière actuellement opérationnel doit avoir signé cette clause sociale avec la communauté locale avant de bénéficier ou d'obtenir ces contrats de concession forestière. C'est dire que ce sont des actions culturelles, des actions physiques comme la réhabilitation des ponts, l'ouverture des routes, des dessertes agricoles,
la construction des écoles, par exemple,
la construction des écoles, des centres de santé en faveur de la communauté locale. Donc, c'est une obligation et je crois, c'est question de rassurer les gens que cela est déjà effectif dans plusieurs provinces, parce qu'ils doivent se souvenir qu'il n'y a pas longtemps que le gouvernement de la République avait lancé les processus de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons avec une société quelque part qui détient un contrat de concession forestière, je crois que nous devons seulement y veiller que à côté du contrat il y a une clause sociale et cette clause sociale est opérationnelle actuellement dans plusieurs sites d'exploitation du bois d'œuvre. Donc la population profite d'abord à travers la clause sociale lorsqu'on fait allusion à l'exploitation forestière industrielle. Mais il doit aussi retenir que la population profitera aussi à travers ce que j'ai dit tout à l'heure là, le processus des forêts de communautés locales. Donc l'État congolais se doit dans le mois à venir mettre à la disposition des populations entre guillemets forestières des portions de forêts qu'elle va exploiter. Puisque avant, jusqu'à la preuve du contraire, c'était la population bénéficiaire de ce qu'on appelle des produits forestiers non lignés. Donc les champignons, les chenilles, tout ce que vous voulez. Mais dorénavant, la population pourra couper par elle-même ou à travers un exploitant forestier artisanal, les bois d'œuvre, les ventes et le bénéfice reviendra totalement à la population. Donc, ce sont là les avantages. Et lorsque j'évoque la clause sociale, c'est qu'effectivement, c'est même une obligation. Et on ne peut pas aujourd'hui, à ce jour, trouver un exploitant forestier industriel avec un contrat de concession. J'insiste. Avec un contrat de concession forestière signé avec le gouvernement de la République représenté par le ministre ayant les forêts dans ses attributions, sans qu'il ne puisse disposer
d'une clause sociale.
Voilà, clause sociale. Donc, il peut se rassurer, c'est déjà institué par l'État et la population profite par là. Qui peut obtenir l'autorisation? Nous l'avons dit, il y a deux modes d'exploitation forestière. L'exploitant forestier industriel, c'est lui-là qui a signé un contrat de concession forestière et à côté un arrangement avec la communauté locale. Il est autorisé à couper du bois. Il sollicite ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autorisation de coupe industrielle de bois d'œuvre chaque année. Donc ça a une validité de 12 mois. Qui peut encore couper? En dehors de l'exploitation industrielle, une personne morale ou physique peut solliciter. Et de grâce que ce soit une personne physique ou morale congolaise qui sollicite les petits permis. C'est ce que nous appelons le permis de coupe artisanale de bois d'œuvre. Donc, en fait,
ça veut dire que les Congolais bénéficient de l'exploitation artisanale.
Artisanale.
Et l'expatrié, exploitation industrielle.
Non. Il y a aussi des Congolais, c'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure, il y a des expatriés. Non, il y a des sociétés à capitaux congolais. Il y a des Congolais qui sont dans l'exploitation industrielle des bois d'œuvre. Comme vous l'avez dit, on n'est pas là ici pour faire la publicité des uns et des autres. Il y a aussi des Congolais, il y a des capitaux mixtes. Donc, c'est celui qui a des gros moyens, c'est lui qui a investi, c'est lui qui sollicite des grandes portions de forêts peut couper en industriel. Pour le moment, une petite parenthèse, l'État congolais n'octroie plus de nouvelles concessions forestières, de grandes concessions forestières, parce qu'il y a un moratoire. Et pourquoi il y a un moratoire sur l'octroi des nouvelles concessions forestières? Tout simplement parce que l'État tient à mettre de l'ordre dans ce secteur d'exploitation forestière pour s'assurer que celle ou celui qui sollicite, en tant que société, sollicite une grande concession forestière, doit avoir suffisamment de moyens et on doit s'assurer aussi que là, on va couper les bois. La forêt n'est pas très sensible à la surexploitation.
Et voilà, et quand vous allez répondre, qui gagne la RDC, pouvez-vous dire un mot sur les reboisements? Parce que Jean a aussi évoqué le problème des reboisements. Hein, juste un mot.
Les reboisements, il faut retenir une chose. Juste rappeler à Jean que... dans les années 70, il y avait un principe qui disait qu'il déboise, reboise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement tout exploitant forestier qui coupait du bois en ce temps-là.
Il avait l'obligation de remplacer.
Il avait l'obligation. Mais l'État congolais s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup. Ces principes-là n'étaient pas scrupuleusement respectés par les exploitants forestiers. C'est comme ça que dans les années 79, l'État congolais a créé, à cette époque-là, le service national des reboisements et partant le fonds de reconstitution du capital forestier. Donc c'était un fonds qui fonctionne avec des taxes payées par les exploitants forestiers
pour permettre à l'État de reboiser.
Voilà, vous avez compris. Et aujourd'hui, ce fonds-là, on l'appelle fonds forestier national qui continue l'œuvre du fonds de reconstitution du capital forestier. Donc les travaux de reboisement, comprenez que le pays, c'était un grand pays. Je crois que je vais inviter Jean pour s'en convaincre, c'est rendre, s'il est à Kinshasa, qui se rende un peu sur le plateau de Bateke, il verra qu'effectivement, il y a des travaux de reboisement à grande échelle, aussi bien dans le Bas-Congo, sur le plateau de Bateke, qui est dans le Bas-Congo et dans le Bandundu.
Rapidement, par rapport à ce que la RDC gagne.
Oui, il est connu que les forêts jouent un rôle important dans l'absorption d'un des gaz toxique, si on peut l'appeler, ou un des gaz qui est à la base du réchauffement planétaire, qui est le dioxyde de carbone. Et les forêts jouent un rôle très important. Et l'État congolais, comme qui a adhéré et ratifié la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, il est, comme les autres pays, en train de revendiquer la contrepartie du service qui rend les forêts de la RDC dans la régulation climatique. Et je vais autant vous dire que la RDC c'est peut-être pas encore palpable, mais la RDC bénéficie de beaucoup d'appui, pas seulement financier, d'appui technique et aussi en termes de technologie, comme contrepartie des services que rendent nos forêts vis-à-vis de la communauté internationale. Nous sommes dans un processus qu'on appelle RED, donc la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Pour le moment, la RDC est entrée avec l'accompagnement de la communauté internationale à mettre en place un fonds national RED. C'est un fonds qui va aider non seulement à ce que l'autre collègue a dit, à la reconstitution du capital forestier là où il est exploité, mais également au développement des infrastructures socio-économiques au bénéfice aussi bien des communautés locales que des investissements pour l'État congolais ou la communauté congolaise dans son ensemble. Donc, il ne bénéficie peut-être pas au prorata des services rendus, mais toujours est-il que des efforts sont fournis au niveau du ministère de l'Environnement et du gouvernement de la RDC pour qu'effectivement ces services-là soient rémunérés.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire vraiment autour du bois, de la forêt. On chemine vers la fin de cette émission. Il y a trois auditeurs qu'on va écouter. Je crois peut-être que ça sera le dernier groupe d'auditeurs. On va revenir à vous pour réagir et conclure cette émission après avoir écouté ces trois auditeurs.
Parole aux auditeurs.
André, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour les auditeurs de Radio Kassai, et bonjour Monsieur l'Ingénieur.
Oui, essayez un peu de parler plus fort parce qu'on a des petits soucis avec votre ligne, André. En bref, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, quelle est votre proposition?
En tout cas, Monsieur Pierrot, c'est alarmant de voir notre grand beau pays comme ça, avec une grande quantité de forêts équatoriales, mais aucune avancée sur l'exploitation de cette forêt. Nous avons ici dans la province certaines écoles où les enfants étudient même les sols. Alors, il n'y a même pas de bancs, mais cette forêt est exploitée par les expatriés qui prennent tout le bois et les amènent à l'extérieur. Je demanderais que le gouvernement puisse en tout cas s'impliquer avec toute dernière énergie pour qu'il y ait des avancées sur l'exploitation de la forêt en République démocratique du Congo. Nous remarquons beaucoup avec regret qu'il y a toujours des textes qui sont mis à... Disons, il y a des textes qui ne sont pas mis en exploitation
Si on vous suit, dommage, on a perdu André. André très inquiet, il dit que le pays puisse avoir ses bois, et les bois sont exploités et exportés. Malheureusement, comme au Kassai Oriental, les gens étudient, il y a même les sols, il n'y a pas des bancs, et pourtant nous avons le bois qui entoure. Pour lui, il est très inquiet par rapport à ça, mais il souhaite aussi qu'on puisse vraiment mettre en pratique tous les textes nécessaires dans l'exploitation forestière. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Dorcas, bonjour. Dorcas, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour. On a des petits soucis avec la ligne de Dorcas. Peut-être on pourra voir. C'est une seule dame qui a appelé dans cette émission. On pourra voir avec la réalisation si c'est possible de recontacter Dorcas de Lubumbashi. Gérard, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour, Gérard.
Oui, bonjour Pierrot. Bonjour à l'invité aussi, à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre proposition, Gérard?
Oui, je vais vous dire un peu ce qui est, Pierrot. Permettez-moi. Dans 30 secondes, je vous dirai un petit message. Je suis né en 1985. Lorsque j'avais 10 ans, je voyais les parents ou des gens de notre village, avant d'écouter le palmier à huile, et on allait d'abord demander la permission quelque part là, de Dieu pour faire des agronomes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient après qu'on puisse demander la permission? C'était la force de la loi. Pour dire quoi? Comme l'invité l'a soutenu auparavant, il a dit, ceux qui dérangent ou qui donnent la chance à cette inégalité, la force ou la sale différence du pays ou de la société. Donc, la force de leadership. Lorsqu'on on sent pas surtout la force de leadership, cela donne l'occasion à n'importe qui, à n'importe quel organisme de pouvoir faire ce qu'il fait du pays, dans le pays plutôt. Alors, pour dire que lorsque le pays ou ce pays sera bien géré, l'inégalité en République démocratique du Congo aura pris le temps. parce qu'avec la situation actuelle du pays, il n'y a pas une loi qui peut contraindre les organismes ou les expatriés à exploiter les voies en République démocratique du Congo. Sinon, nous sommes désolés, en tout cas, nous sommes désolés de la gérance de ce pays, parce que c'est ce qui est à la base de l'illégalité dans tous les domaines du pays. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette parole.
Malheureusement, votre ligne téléphonique a des petits soucis, mais on a bien entendu votre souci. Pour vous, vous vous inscrivez dans le futur, dans l'avenir. Vous pensez que c'est le jour où le pays sera bien géré, qu'on pourra aussi mettre de l'ordre dans l'exploitation forestière. Mais au même moment, vous avez fait voir qu'il faut le respect de la loi. C'est si on peut le dire, les deux, vous inscrivez dans l'avenir, mais vous pensez aussi qu'avec le respect de la loi, là, il y a moyen qu'on puisse résoudre le problème. Il y a une loi qui doit contraindre les uns et les autres, hein, et là, on peut résoudre les problèmes de l'exploitation illégale du bois. Merci beaucoup, Gérard de Kananga au Kasai Occidental. Dommage qu'on n'a pas pu avoir le dernier auditeur. Voilà, nous avons Rachel qui nous appelle d'Isiro, en province orientale. Bonjour, Rachel.
Allô, bonjour.
Nous tendons vers la fin de cette émission. Rachel, quelle est votre proposition?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je suis un peu dur parce que si on coupe les arbres, ce n'est pas seulement en vain qu'on vient on coupe les arbres. Ça a un avantage et le désavantage. L'avantage maintenant, c'est quoi? Ça nous aide, on fabrique des histoires avec des bois, des histoires. Ça, déjà. Et maintenant, les avantages, c'est, ça concerne la vie humaine déjà. Ça aide aussi les gens, tout ça. Et si on coupe les arbres, des fois, il y a des complications, tout ça. Mais un jour, je viens à la télé, c'était à Chine. On plantait des arbres. Je ne sais pas si ça ne sera pas possible de le faire encore. Mais c'est comme on coupe et on plante encore. Ça sera un peu mieux. C'est un peu sur ma contribution.
Merci bien, Rachel. Il y a deux avantages. Quand on exploite les bois, ça nous permet de résoudre autant de besoins que nous avons. Mais votre souci, c'est que autant qu'on coupe, autant aussi qu'on puisse reboiser, ça peut créer un équilibre. Merci pour tous les auditeurs. Nous revenons à vous, José Ilanga. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Mais il y a aussi une préoccupation de nos auditeurs, c'est par rapport au trafic d'influence, que ce soit dans l'octroi des titres et permis, que ce soit aussi dans le contrôle de ce qui se fait sur terrain. Il y a un auditeur qui a parlé de la lutte contre la corruption comme un des mécanismes efficaces pour lutter contre l'illégalité dans l'exploitation des bois. Et eu égard à tout ce qui a été dit par les auditeurs en 2 minutes et demie, quelle est votre réponse et votre conclusion au nom du ministère de l'Environnement?
Merci, monsieur le journaliste. Je crois, au nom du ministère de l'Environnement, je vais rassurer. Je vais rassurer nos compatriotes, nos collègues, ainsi que les autres collègues de la société civile que la gestion forestière s'est faite conformément à la réglementation. Et la réglementation, on la trouve dans la loi portant code forestier, ainsi que dans ses textes d'application. Vous avez évoqué le cas de la corruption. Je ne pense pas qu'on puisse parler en termes de corruption. Je souhaiterais beaucoup plus qu'on parle en termes de fraude. Fraude parce que il y a le non-respect de la réglementation par une frange de la population, ou encore par une frange d'exploitants forestiers, surtout artisanaux. Et pour ce faire, l'État déploie des moyens pour essayer de juguler cette exploitation frauduleuse, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette exportation, et aussi l'exportation illicite des bois d'œuvre à travers les territoires congolais. Et là, le ministère s'attelle, avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires, et aussi avec ses moyens propres, à renforcer les capacités de contrôle au niveau central, au niveau des provinces, et pourquoi pas au niveau des districts et des territoires. Donc, je les rassure qu'effectivement, il y a un renforcement de capacité dans le contrôle de l'exploitation forestière. Et je les rassure aussi que l'exploitation, comme la gestion forestière, se fait selon un programme établi, selon une loi et selon une politique forestière qui est en cours de promulgation. Donc, l'État essaie de déployer effectivement des moyens. L'État, la gestion forestière ou la gestion des ressources forestières, c'est fait actuellement avec l'implication de toutes les parties prenantes, et pour s'en convaincre, l'État a mis en place, à travers la loi portant code forestier, des plateformes de concertation. Nous avons au niveau national ce que nous appelons le Conseil consultatif national des forêts, où on trouve toutes les parties prenantes. Quand je dis toutes les parties prenantes, il y a les secteurs privés, il y a la société civile, il y a les autres administrations qui sont intimement liées à l'exploitation, à la gestion des ressources naturelles de la RDC. Vous trouverez également une autre plateforme ou d'autres plateformes de taille comme les conseils consultatifs provinciaux des forêts. Et là, on retrouve les délégués membres des communautés locales. C'est dire que la politique est mise en place pour une gestion durable et rationnelle des ressources forestières, aussi pour l'intérêt des générations actuelles, notre génération, mais également pour l'intérêt des générations futures dans un cadre de développement durable. Et l'État, ici représenté par le ministère de l'Environnement, est conscient que les secteurs forestiers, dans son ensemble, on voit bien les bois alignés, mais également les produits forestiers non alignés, est appelé à contribuer de façon très considérable à l'économie du pays, au budget de l'État congolais et aussi, j'insiste, au bien-être des communautés locales lorsque toutes les parties prenantes s'impliquent aussi pour aider l'État congolais dans la gestion durable, rationnelle de ses ressources forestières. Donc je tenais absolument à y revenir, à résumer la situation dans ce sens-là. Les trafics d'influence, vous savez, on ne s'est pas octroyé, les ministres ne s'est pas signé un permis de coupe aussi bien artisanal qu'industriel lorsqu'il n'est pas rassuré par ses services de base. L'information part des territoires, des districts, au niveau des provinces, et le ministre reçoit, ce que je l'ai dit tout à l'heure, l'avis des vacances, et donc là, il se met en sécurité pour dire effectivement, les services ont constaté que cette portion de forêt est vacante de toute activité humaine, et je peux l'octroyer à un Congolais lorsqu'il s'agit essentiellement de l'exploitation artisanale des bois d'œuvre. Pour l'exploitation industrielle, le problème ne se pose pas parce que le périmètre est connu, il est circonscrit, il est répit, même dans les contrats signés avec le gouvernement. Donc, c'est rassurer la communauté que des efforts sont fournis de plus en plus pour qu'effectivement il y ait cette implication et aussi une gestion durable et rationnelle de nos ressources naturelles renouvelables, dont les ressources forestières.
Merci beaucoup, Monsieur José Ilanga. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs coordonnateurs d'études et de planification au ministère de l'Environnement. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour le studio de Radio Capi.
C'est plutôt moi qui vous remercie parce que nous devons édifier aussi nos collègues et nos compatriotes par rapport à ça.
Nous disons aussi également merci à tous les auditeurs. Ils ont été nombreux à s'intéresser à ces sujets autour du bois et de la forêt congolaise. On vous dit tous merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve le lundi 25 mars prochain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Recherché par la Cour pénale internationale, le général congolais Bosco Ntaganda s'est rendu en début de semaine à l'ambassade des États-Unis à Kigali et a demandé qu'il soit transféré à la Cour pénale internationale. Que vous inspire la reddition de Bosco Ntaganda et quelle suite probable donnez-vous à cette affaire? On se retrouve le lundi. Vous pouvez déjà réagir en déposant votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission et bon week-end à chacun en compagnie de Radio Capi. Au revoir.